Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
En 2013, environ 35 millions de personnes vivaient encore avec le virus du sida. Mais l'épidémie peut être vaincue. Nous verrons que l'Église catholique est au premier rang de la lutte contre la maladie. Nous reparlerons de la situation au Moyen-Orient dans ce magazine. Le Moyen-Orient où les conflits s'éternisent et se radicalisent. Vous entendrez un appel de l'archevêque de Rennes. Vous entendrez également l'évêque de Constantine. Ces jours derniers, le ministre algérien des Affaires religieuses a adressé un message d'apaisement aux Juifs ainsi qu'à toutes celles et ceux qui pratiquent des confessions autres que l'islam. L'Algérie n'est pas contre eux, a-t-il lancé, suscitant la colère des salafistes. Après l'échec d'une tentative de trêve, Israël a intensifié ses frappes sur l'enclave palestinienne de Gaza. En France, des partis politiques, des syndicats et des organisations ont convoqué des manifestations en soutien au peuple palestinien. Dimanche à Paris, des incidents avaient opposé des manifestants à des membres de la communauté juive devant une synagogue, suscitant l'inquiétude des responsables religieux juifs et musulmans, ainsi que de la classe politique. Le jour suivant, François Hollande avait mis en garde contre le risque d'importer le conflit israélo-palestinien en France et d'accentuer les lignes de fracture à l'intérieur de la société française. Inquiète de l'antisémitisme croissant en Europe, la communauté juive française prend de plus en plus le chemin d'Israël. Et alors que les conflits s'éternisent et se radicalisent en Terre Sainte, Syrie, Irak, je vous propose d'écouter l'archevêque de Rennes. Interrogé par nos confrères d'RCF Alpha, Mgr Pierre Dornelas invite les catholiques français à se sentir concernés par ce qui se passe dans ces pays, des pays lointains, mais où se trouvent nos racines chrétiennes.
Il ne faut pas que nous soyons fatalistes. Il ne faut pas que nous demeurions indifférents quand nous voyons les nouvelles sur la guerre, si je peux dire, qui se passe actuellement sur la bande de Gaza. Il me semble qu'il faut que nous réagissions intérieurement, et que nous réagissions intérieurement, premièrement, en ne nous laissant pas gagner par l'indifférence et en cherchant à comprendre les ressorts de cette violence, sans accuser l'un contre l'autre, sans prendre parti, mais essayer de comprendre les ressorts de cette violence. Essayer de bien comprendre l'histoire des faits. Et deuxièmement, chrétiens et croyants, croyants juifs ou croyants musulmans, nous avons tous à prier pour la paix, car Dieu est un Dieu de paix. Et nous pouvons prier en nous situant dans la ligne de ce qu'ont fait le président israélien et le président palestinien dans les jardins du Vatican. Chacun a prié, selon sa religion, pour la paix. Il faut que nous, ici, nous soyons des artisans de paix en croyant à la paix, en faisant mémoire de cette histoire de paix qui s'est passée dans les jardins du Vatican et de tous les acteurs de la paix, et aussi en priant pour la paix. C'est fondamental, me semble-t-il.
Alors en ce moment, Mgr Dornelas, on peut aussi prier pour les chrétiens d'Irak qui subissent de très violentes attaques.
Il y a des fanatismes qui ne supportent pas la présence des chrétiens et qui veulent éradiquer la présence des chrétiens en Irak et aussi en Syrie et peut-être aussi au nord du Nigeria. Bien sûr, ces chrétiens demandent qu'on ne les oublie pas. C'est capital de prier pour eux quand nous participons à la messe le dimanche et de prier pour eux publiquement, mais aussi de manifester de l'intérêt. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Essayez d'aller aux sources pour mieux comprendre. Et un des points aussi que l'Église soutient sans arrêt, c'est le droit à la liberté de conscience, à la liberté religieuse. C'est un droit humain, c'est un droit fondamental de l'existence humaine. Et tant que des fondamentalistes refusent ce droit à des personnes, ces fondamentalistes sont dans l'erreur grave. C'est un péché grave de ne pas respecter le droit à la liberté religieuse pour toute personne humaine. Peut-être des chrétiens, des musulmans, des juifs peuvent écrire à nos élus nationaux pour leur demander que soit fait quelque chose pour que ce droit à la liberté religieuse soit pleinement respecté et promu en Irak et en Syrie.
C'était l'archevêque de Rennes, Mgr Pierre Dornelas. En Algérie, on s'achemine peut-être vers une réouverture des synagogues fermées depuis les années 1990, officiellement pour raison de sécurité. Le ministre algérien des Affaires religieuses, Mohamed Aïcha, s'est engagé en faveur de la liberté de culte. Même si la constitution algérienne stipule que l'islam est la religion d'État, le ministre a déclaré mardi que les chrétiens et les juifs étaient les bienvenus dans le pays. Il a notamment annoncé un projet de loi justement pour ouvrir les synagogues. Mais cette décision n'a pas été accueillie de manière favorable par tout le monde. Vendredi, une manifestation a été organisée à Alger par des leaders salafistes. Pour Mgr Paul Desfarges, évêque de Constantine, les déclarations du ministre sont de bon augure pour la liberté religieuse en Algérie.
Les réactions, c'est une réaction très positive et j'ai eu beaucoup d'échos d'amis algériens qui ont été très contents de ce ton nouveau, c'est dans la même ligne que l'ancien ministre, mais avec un coup de jeune et un dynamisme, vraiment un dynamisme qui fait plaisir. Le ministre, en particulier, veut protéger l'islam algérien de ce qu'il appelle des dérives sectaires, des fatwas, c'est-à-dire des avis juridiques qui viennent d'ailleurs, de l'étranger, et qui sont inspirés de courants théologiques, voire idéologiques, qui dénaturent l'islam, qu'on appelle le wahhabisme, le salafisme ou autres, en particulier des théologies d'Arabie Saoudite. Et il dit, nous avons un islam spécifique, algérien, nous ne sommes pas tunisiens, nous ne sommes pas iraniens, nous sommes algériens, et il nous faut vivre notre islam et le garder et le protéger. Il y avait quelque chose sur le jeûne, mais il a rappelé que le jeûne est une affaire strictement privée. Il y a un autre point qui est important, il a rappelé qu'il est le ministre des cultes, de tous les cultes. Et c'est vrai, nous, chrétiens, catholiques, en sommes témoins. Il a rappelé que l'Algérie, l'État algérien, des sponsors algériens ont aidé par leur financement à la restauration de la basilique Saint-Augustin d'Annaba et précédemment la basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger. Que la liberté de culte, mais aussi de conscience, ça c'était par rapport aux jeunes, est inscrite dans la Constitution. Il a rappelé qu'il y avait une petite communauté juive, en particulier à Alger, dans un quartier populaire, qu'il avait contact avec son responsable, que le moment venu, il pourrait être envisageable de réouvrir une synagogue, mais que ça n'était pas le moment, tant que la sécurité n'est pas assurée en ce moment. Il faut d'abord assurer la sécurité pour permettre l'ouverture du lieu de culte, mais ça peut très bien se faire un jour et sans complexe et sans difficulté. Enfin voilà certains points qui ont frappé, je dis bien, beaucoup d'interlocuteurs par la netteté, la franchise du ton et la clarté. Et personnellement, je m'en réjouis.
Et comment les déclarations du ministre ont-elles été accueillies en Algérie par la communauté non chrétienne ?
Beaucoup d'amis algériens musulmans ont été très contents de ce ton et de cette liberté en particulier parce que beaucoup de gens souffrent, beaucoup de musulmans souffrent de cette invasion, je ne sais pas, c'est peut-être un mot trop fort, de ces courants plus radicaux qui diffusent ce que le ministre a appelé des fatwas sectaires, c'est-à-dire des avis juridiques qui ne sont pas de chez nous, qui font souffrir beaucoup de familles. Et qui entraînent des jeunes ou des moins jeunes dans des courants qui n'ont pas lieu d'être.
Est-ce qu'on peut dire alors que la manifestation qu'il y a eu à Alger contre ces déclarations était le fait d'une minorité en Algérie ?
Oui, tout à fait. Je crois que le courant un peu radical, etc., est minoritaire en Algérie. Même s'ils font du bruit, même si justement ils se manifestent. Et en particulier, je pense que ce qui a un peu soulevé quelques personnes, c'est cette idée qu'il serait possible un jour de réouvrir une synagogue. Et là, je trouve que c'est courageux de la part du ministre de dire les choses comme elles sont et d'être fidèle à ce qu'il veut être, ministre des cultes et de tous les cultes.
L'évêque de Constantine, Mgr Desfarges, interrogé par Christelle Pire. Au Soudan, en revanche, les autorités de Khartoum ont bloqué les permis de construire pour les nouvelles églises. Le ministre des Affaires religieuses a expliqué que la communauté chrétienne s'était fortement réduite à la suite de la sécession du Soudan du Sud en 2011. La plupart des chrétiens qui vivaient à Khartoum ont été expulsés vers le sud. L'église catholique soudanaise tire la sonnette d'alarme. Les discriminations à l'encontre des chrétiens s'intensifient et leur situation juridique est inquiétante.
«
Je vous le disais en titre, en 2013, environ 35 millions de personnes vivaient avec le virus du sida, mais l'épidémie peut être vaincue. L'Église catholique est au premier rang de la lutte contre la maladie. Les avancées et les défis liés au VIH-sida seront au cœur d'une réunion de 3 jours qui s'ouvre vendredi à Melbourne, en Australie, sous les auspices de Caritas Internationalis. Cette réunion se déroulera à la veille de la conférence internationale sur le sida qui se tiendra toujours à Melbourne. Monseigneur Robert Vitillo, conseiller de Caritas Internationalis sur le sida, participera aussi bien à la réunion confessionnelle qu'à la conférence internationale. Olivier Bonnel.
Selon Caritas, l'Église catholique fournit 25% de la totalité des soins dispensés dans le monde entier aux personnes atteintes du VIH, en particulier dans les pays en développement. Plusieurs ONG et organisations catholiques vont se retrouver pendant 3 jours pour évaluer les progrès scientifiques accomplis, analyser les meilleures pratiques, les défis éthiques et les problèmes de financement. À ce propos, Mgr Vitillo, conseiller spécial de Caritas Internationalis sur le VIH-Sida et la santé, a déploré la diminution des fonds alloués aux organisations confessionnelles. Or, malgré des résultats encourageants, il faut, selon lui, presser le pas. Caritas salue la tenue à partir de dimanche en Australie d'une conférence internationale de haut niveau, une première dans la région Pacifique. Elle devrait permettre de promouvoir des changements de comportement et d'éviter à l'avenir la propagation du VIH dans la région. Selon des chiffres fournis par l'ONU, les décès liés au sida ont chuté de plus de 30% en 10 ans, tout comme le nombre de nouvelles infections. Les nouvelles contaminations touchant les enfants ont aussi diminué. L'Afrique subsaharienne reste encore la région la plus touchée par le virus avec 1,5 million de nouvelles infections l'an dernier, dont plus de 200 000 enfants. Les pays les plus concernés sont toujours l'Afrique du Sud et le Nigeria. Les experts des Nations Unies sont convaincus qu'il est possible de mettre fin à l'épidémie, même si la bataille est loin d'être achevée. 22 millions de personnes n'ont toujours pas accès à un traitement salvateur.
Et au Libéria, l'archevêque de Monrovia a exhorté les chrétiens à ne pas sous-estimer la dangerosité du virus Ebola. Au cours d'un séminaire de sensibilisation sur la diffusion du virus, Mgr Ziegler a demandé à la communauté catholique de prendre acte de cette urgence sanitaire et de collaborer avec le ministère de la Santé. Il a entre autres recommandé la prudence lors des rites de sépulture traditionnels. 67 responsables religieux avaient été invités à participer à ce séminaire. Ils ont présenté un plan d'action prévoyant notamment des cours d'éducation à la prévention dans les paroisses, les foyers et les communautés. Le bilan de l'épidémie de fièvre hémorragique, en grande partie due au virus Ebola, continue de s'aggraver. Il a dépassé les 600 morts depuis le début de l'épidémie en janvier dernier. 3 pays d'Afrique de l'Ouest sont touchés, Guinée, Libéria et Sierra Leone. L'OMS a indiqué qu'elle essayait d'avoir le soutien de personnes influentes et respectées au sein des communautés pour mieux expliquer aux populations les mesures de protection contre le virus. Pour mieux appréhender cette période de mutation sans précédent touchant tous les domaines de notre vie, la famille franciscaine se mobilise. Elle a organisé sa première université d'été à Brive-la-Gaillarde, dans le sud-ouest de la France. Un premier rendez-vous avec pour thème « La crise, les crises, un nouveau monde en train de naître ». Loïc Pelletier dirige la COP Atlantique, une coopérative de consommateurs dans le centre-ouest de la France. Il est aussi membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Il a participé à la 2e journée de l'université consacrée à appréhender la crise. Loïc Pelletier revient sur une des principales conséquences de cette crise, le chômage.
L'emploi est quand même la préoccupation numéro 1 et de l'économie, et en tant que chrétien, c'est le ciment de notre société. Donc en tant que chef d'entreprise, je suis extrêmement attaché à ce que l'emploi puisse au moins se maintenir, pas toujours comme on le souhaite. Quand il y a des mutations à faire, les mutations sont bien accompagnées. Mais on a besoin de développer l'emploi, on a besoin de développer la croissance, on a besoin de développer les entreprises. Donc même si effectivement beaucoup de choses changent, il faut faire attention à ça. Alors pour une raison essentielle, c'est qu'il est beaucoup plus difficile de changer d'emploi, de changer de compétences, que de créer ce monde nouveau à travers des nouveaux investissements. Beaucoup plus facile d'aller créer une nouvelle usine à l'étranger ou ailleurs, ou changer une nouvelle technologie, que d'adapter les gens en question aux nouvelles conditions. Et si on n'y fait pas suffisamment attention, on laisse plein de gens sur le bord de la route, plein de blessés pour compte, c'est dramatique pour notre société.
Que pensez-vous de l'approche des chrétiens qui disent que la crise a avant tout une origine morale ?
Aujourd'hui, le marché du travail est devenu beaucoup plus complexe, beaucoup plus coûteux. Donc les entreprises, délibérément, mais avec l'appui tacite de la société, donc en fait, les emplois se sont réduits dans notre pays parce que, effectivement, on a préféré garantir la stabilité, garantir le confort, garantir au moins les protections minimales qui existaient pour les autres salariés. Donc effectivement, une grande partie des emplois sont allés à l'étranger, d'où nous importons beaucoup de produits. C'est en ça qu'on peut dire effectivement qu'il y a une responsabilité peut-être morale des uns des autres, c'est qu'il faut d'abord voir dans notre société, dans notre comportement à nous, de consommateurs, de salariés, d'entrepreneurs, la raison pour laquelle il y a cette crise de l'emploi.
Et quel peut être selon vous l'apport donc d'une université d'été franciscaine sur ces questions ?
On n'est pas là pour défendre une image de marque, on n'est pas là pour défendre une chapelle et des choses comme ça, on est là pour essayer de voir en vérité, en prenant vraiment ce que l'homme espère au fond de lui-même, pour régler cette crise ou pour essayer d'améliorer notre société. La deuxième, c'est que l'Église, elle n'a pas de solution idéale, évidemment, et toute faite sur les questions économiques, sociales et sociétales. C'est vraiment la responsabilité de chacun. L'Église propose de faire en sorte que l'entreprise soit plus respectueuse d'un certain nombre de comportements et des hommes, que la formation, le respect, l'accompagnement nécessaire aux salariés soient pris en compte. Mais il n'y a pas de recette miracle. Hein.
Loïc Pelletier, directeur de la COP Atlantique, interrogé par Audrey Radondi. Les évêques d'Afrique centrale s'inquiètent de certaines évolutions contemporaines concernant la famille qui ont de graves conséquences sur le mariage catholique. Dans un message publié au terme de la 10e assemblée plénière de la CERAC à Brazzaville, ils constatent que la famille subit aujourd'hui les contre-coups des mutations socioculturelles. C'est pourquoi la CERAC s'engage à restructurer la pastorale de la famille et notamment à mieux préparer au mariage. Elle s'efforcera d'harmoniser les trois formes de célébration du mariage, mariage coutumier, mariage civil et mariage catholique. Ces trois célébrations, avec le coût financier qu'elles comportent, dissuadent les jeunes à l'engagement. Les évêques s'inquiètent par ailleurs des dérives concernant la dot qui dévalorise la dignité de la femme considérée comme une marchandise. Dans ce message, on peut lire aussi qu'au nombre des projets des églises africaines se trouve l'éducation à l'amour, alors que nous vivons dans un contexte marqué par l'égoïsme, l'utilitarisme et l'hédonisme. Une recommandation intéressante concerne le dialogue en famille et le sens du pardon et de la réconciliation. Les dernières résolutions concernent les mariages mixtes et interreligieux, la lutte contre les sectes qui ne cessent de faire des ravages, sans oublier la lutte contre la croyance en la sorcellerie. En Colombie, l'épiscopat s'est dit une nouvelle fois prêt à participer en tant que médiateur à d'éventuelles négociations de paix entre le gouvernement et la guérilla de l'ELN, armée de libération nationale, le deuxième groupe armé du pays. Des colloques préliminaires sont prévus, une phase exploratoire qui pourrait déboucher sur des pourparlers de paix, comme c'est déjà le cas avec les FARC. L'Église de Colombie est aux côtés de la population durement éprouvée par des années de violence. Elle s'efforce de réhumaniser la société et de changer les mentalités. Antonino Gallofaro.
En pleine campagne électorale pour le second tour de l'élection présidentielle, le gouvernement colombien avait annoncé des discussions de paix approfondies avec l'ELN. Fraîchement élu, le nouveau président de la conférence épiscopale tient tout de suite à afficher sa disponibilité. L'Église ne refusera pas d'y participer si elle est invitée. Convaincue que ce n'est pas par la force des armes qu'on combat la pauvreté et les inégalités, l'Église soutient le dialogue politique à condition que toutes les parties fassent preuve de sincérité. De leur côté, estime-t-elle, les groupes armés devraient reconnaître leurs crimes, demander pardon et accepter que justice soit faite, car la réconciliation ne peut pas se construire sur l'impunité. Mais la route vers la paix est encore longue en Colombie, d'autant que l'ouverture de négociations avec la guérilla ne fait pas l'unanimité au sein de l'opinion publique. Lundi, 13 combattants des FARC ont été tués lors du bombardement d'un camp de rebelles, alors que de nouvelles négociations devaient avoir lieu entre le gouvernement et les chefs de l'organisation armée. Une opération qui montre que l'armée est toujours à l'offensive.
Les Nations Unies apprécient l'œuvre de médiation menée par la communauté catholique romaine Sant'Egidio en vue de ramener la paix en Casamance. Cette région sénégalaise est en proie depuis plus de 30 ans à un conflit armé qui oppose le gouvernement central aux séparatistes du mouvement des forces démocratiques de Casamance. Le 28 avril dernier, le leader des indépendantistes a proclamé un cessez-le-feu unilatéral en signe de bonne volonté. Selon le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, c'est le résultat du travail accompli par Sant'Egidio avec le soutien des États-Unis et d'autres partenaires internationaux. Le 22 février, en effet, au siège de la communauté dans le quartier romain du Transtévère, les délégations des deux parties en conflit avaient adopté des mesures de confiance réciproques, engageant les signataires à garder un comportement qui puisse favoriser les négociations pour le retour de la paix et réduire les souffrances de la population. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie, mais je vous invite à nous retrouver également sur Internet, Radio-Vaticana.va, ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.